Retour pour ce débat sur la première radio des Alpes du Sud. Je vous rappelle que pour ce dernier débat avant les législatives, nous sommes sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes avec nos deux candidats qui s'affrontent ce soir. Joël Giraud pour La République En Marche et Arnaud Murgia, candidat d'Hiver Droite. Les entreprises, alors on va bientôt arriver au terme de notre rencontre, donc je vais vous demander des réponses qui soient synthétiques, claires, précises, rapides. Je crois que j'ai usé d'assez de synonymes sur le sujet. On va parler des entreprises, Cyrielle.
Et du tissu économique dans les Hautes-Alpes qui est majoritairement composé de TPE et de PME, qui aujourd'hui se disent écrasés par les normes, écrasés par les charges. Dans les années 2000, on a eu un sursaut de création d'entreprises, notamment avec le statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est plutôt l'écrasement des créations. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au monde entrepreneurial et en particulier aux TPE, aux PME ?
Joël Giraud.
Bon, déjà, première chose, on a bien vu qu'il y avait un dispositif qui ne fonctionnait pas, qui s'appelle le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors, ça fait sourire mon contradicteur, parce qu'il va comme d'habitude dire c'est de votre faute, puisque c'est un dispositif du gouvernement précédent. Le seul problème, c'est qu'il y a des députés qui sont quand même un peu lucides et pas forcément godillots. Et moi, je vous rappellerai simplement ce que je disais. Je me permets de lire simplement un texte. Je disais exactement cela. Le nombre de chômeurs est reparti à la hausse. Pourtant, le CICE monte en puissance. Le CICE représente un effet d'aubaine certain, par exemple pour nos grandes banques commerciales qui empochent les fonds pour mieux rémunérer les actionnaires ou des de l'emploi et des salaires. Les acteurs de la grande distribution également, nos géants du CAC 40 ne sont pas en reste. Total a rénové le hall de sa tour à la Défense pour plusieurs millions d'euros sans créer un seul emploi.
Donc Arnaud Murgia dit que vous l'avez voté, vous dites bémol ?
Je dis que dès le départ, j'ai demandé à un observatoire des contreparties. Parce que je voulais que... Moi, je laisse la chance aux mesures. On me dit que c'est une mesure intelligente, mais je veux un observatoire des contreparties pour savoir si ça bénéficie au vrai tissu, c'est-à-dire PME, PMI, TPE, et si ça crée de l'emploi. Dans la mesure où on constate au travers de cet observatoire que nous avons peiné quand même à avoir et à obtenir et à mettre en place que ça ne fonctionne pas, nous avons demandé... Je n'étais pas le seul. La rapporteure générale du budget, qui est beaucoup plus à gauche que moi, en a fait de même. Nous avons demandé de transformer ça en baisse de charges. C'est aujourd'hui ce qui va se passer, des baisses de charges particulièrement ciblées vers les TPE, vers les PME et les PMI, parce que nous sommes un pays de TPE, PME, PMI, et le département des Hautes-Alpes encore plus. Donc oui, ce sont les baisses de charges, et c'est également sur la trajectoire de l'impôt sur les sociétés qu'il faut agir. Lors des dernières réunions de la commission des finances de l'Assemblée, on a plaidé pour une descente du taux de l'impôt sur les sociétés jusqu'à la moyenne européenne. Bon, parce que la moyenne européenne est de 25, on est à 33. On a voté quelque chose qui est une descente vers 28% pour constituer un consensus entre les différents groupes. Aujourd'hui, on revient à ce que moi j'avais prôné, c'est-à-dire 25% qui est la moyenne de l'Union européenne.
Ce qu'avait proposé Emmanuel Macron dans son programme.
C'est ce qu'Emmanuel Macron a proposé dans son programme et qui me semble la meilleure des choses. Voilà.
Arnaud Murgia, vous avez déjà été contré sur l'une de vos attaques ?
Non, mais j'ai pas compris ce que vous avez
dit. Est-ce que vous avez déjà été contré sur l'une de vos attaques, à savoir, il a voté le CICE ?
Mais oui, non, mais ça me fait rire, mais parce qu'à ce stade, c'est plus de l'équilibrisme, c'est du funambulisme. C'est-à-dire que vous avez appartenu à une majorité qui a fait le CICE et vous vous engagez.
Vu mon format, je vais éviter.
Vous avez augmenté comme jamais la fiscalité des entreprises, notamment avec la création de la cotation pénibilité. Et maintenant, vous nous dites que vous allez le baisser à 25. Vous avez supprimé la défiscalisation des heures sup et vous voulez maintenant la remettre. Vous voulez
pas de raccourci.
Vous voulez unifier les
heures sup.
Alors que vous avez fait partie de la majorité qui a supprimé.
Ce sont les charges.
Qui a supprimé le jour de carence.
Pas de défiscalisation. Vous confondez.
Un problème de cohérence à avoir tout fait et vouloir faire absolument tout l'inverse.
Incroyable.
Donc je trouve ça quand même assez amusant. Sur la question des indépendants et des artisans, il y a une chose à réformer, en l'occurrence à supprimer, c'est le RSI. Et sur la question de la concurrence déloyale entre les artisans et les auto-entrepreneurs, je propose la chose suivante, c'est qu'on fasse et qu'on permette la franchise de TVA à 50 000 euros sur les services, à 120 000 euros sur les achats et ventes, pour les artisans, ce qui permettra à la fois déjà de leur redonner un peu d'air frais, et on a besoin d'encourager dans notre département de montagne des jeunes à se lancer dans les métiers de l'artisanat parce que c'est un des tissus économiques majeurs pour nous, et qui réglera ce problème de concurrence déloyale, tout en vous disant aussi qu'il ne faut pas pour autant casser le statut de l'auto-entrepreneur qui est bon, parce que ça amène vers l'entreprise. Je suis d'ailleurs favorable à ce qu'on puisse autoriser à partir de 16 ans à créer une auto-entreprise, parce qu'il faut encourager le plus possible les jeunes.
À partir de 16 ans ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. J'y suis... Je pense qu'on pourrait
réfléchir à... Qu'est-ce qu'on peut créer à 16 ans comme auto-entreprise ?
On peut on peut créer plein de choses. Regardez aujourd'hui sur Internet, dans la musique, tous ceux qui se lancent jeunes et qui créent quelque chose et qui derrière pourraient, si ça fonctionne, se dire bah tiens, je me lance directement dans le travail, dans l'entreprise privée.
Merci pour ces propositions, messieurs. Le marché du travail, c'est aussi les salariés. Entre un assouplissement des règles et un renforcement des droits, on propose quoi aux salariés de demain? Arnaud Murgès, c'est à vous de prendre la parole pour cette question.
Sur les questions du droit du travail?
Oui, sur le droit du travail et sur ce qui permettra aux salariés d'être entre l'assouplissement des règles et un renforcement des droits du salarié.
Moi, je suis extrêmement favorable à ce qu'on assouplisse effectivement et qu'on revoie en entier le code du travail. On a des sujets qui sont majeurs.
De ce qu'on en sait aujourd'hui, de ce qui est proposé par Emmanuel Macron, est-ce que vous vous reconnaissez?
Plutôt sur pas mal de points, la question de la création d'un plancher pour les indemnités prud'homales me semble être une bonne idée. On a quand même un sujet quand dans ce pays la rupture conventionnelle est devenue la norme. C'est qu'à un moment il y a quelque chose qui fonctionne plus. Je pense aussi qu'il y a un sujet qui sera celui des obligations sociales en fonction du nombre de salariés que vous avez dans l'entreprise, excusez-moi le mot m'échappe, c'est-à-dire des normes que vous avez quand vous passez au-dessus de 10 salariés ou au-dessus de 50 salariés. Regardez dans ce pays le nombre d'entreprises qui ont 49 salariés et qui ne veulent pas passer au-delà. Donc je crois que là-dessus, on pourrait doubler de 10 à 20 et de 50 à 100. Et effectivement, il y a un certain nombre de mesures de simplification du droit du travail qui doivent nous permettre, bien évidemment, d'assouplir. Parce que ce que je regrette, finalement, c'est qu'on vive un climat économique dans lequel on ne fait pas confiance au chef d'entreprise. Où on a l'impression que le chef d'entreprise est quelqu'un qui ne veut pas fidéliser ses salariés, par exemple, quand il a des saisonniers, qui ne veut pas bien s'occuper et essayer de promouvoir, notamment par la formation, ses salariés. Sortons de ce climat de défiance si on veut arriver à relancer l'économie privée dans ce pays.
Merci Arnaud Murgès. Joël Giraud, sur cette question, finalement, on se rend compte que vous vous rejoignez.
Il y a un point sur lequel on ne se rejoint pas, mais ce serait long si on avait ce débat-là, c'est sur le CDD reconductible généralisé à l'ensemble du secteur touristique.
Oui, Monsieur Murgès m'a déjà fait le reproche que j'ai fait inverser la norme, c'est-à-dire que le CDD saisonnier reconductible est la règle désormais dans la loi travail, c'est ce que nous avons voté, et que le CDD non reconductible est l'exception. Et effectivement, c'est une mesure qu'attendaient y compris de nombreux chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est une mesure qui était déjà en vigueur chez Domaines Skiables de France, qui est la démonstration
et c'est
quand
très
même.
Bien, et c'est très bien que ça soit en vigueur dans les stations. Ce que je vous reproche, c'est sa généralisation.
Ben, la généralisation à partir d'un certain seuil de salariés.
Ça veut dire
parce que nous avons besoin de salariés formés, y compris dans la saisonnalité, y compris dans l'hôtellerie-restauration.
Et ça voudra dire que dans l'hôtellerie-restauration, au 15 décembre, il n'y aura pas encore de neige, il n'y aura pas encore de clients. On sera obligé d'embaucher, de mettre au chômage, qui c'est qui paye? C'est nos impôts. Ça consiste à continuer à faire des chèques en blanc.
Non, mais il y a un moment où les gens doivent être protégés.
Et ça consiste aussi à expliquer que le chef d'entreprise qui a un restaurant en station.
Je préfère une baisse des charges avec des salariés mieux protégés que ce que vous prenez, c'est-à-dire ne pas protéger les salariés.
Mais non, mais pas du tout. Mais arrêtez de dire que les salariés ne sont pas protégés parce que vous savez que
les saisonniers, en espèce, c'est le cas.
Et en plus, en l'occurrence, vous, quand vous faites cela, vous expliquez en gros que le type qui a son restaurant en station, c'est un type qui veut absolument virer ses saisonniers d'année en année. Mais attendez, le restaurant, mais si, parce que c'est l'impact de votre mesure. Il y a un intérêt à la fidélisation, bien entendu, ces saisonniers. Moi, ce que je dis, c'est que la situation des saisonniers doit être résolue par un investissement maximum sur la formation pour encourager nos saisonniers,
pour former des gens, encourager quand ils n'ont pas des contrats reconductibles.
Pour encourager nos saisonniers à aller vers la pluriactivité.
Ils n'ont même pas le droit à certains types de formation.
Mais le problème, Monsieur Giraud, c'est que là, on voit bien qu'effectivement, vous avez bien quelques restes de socialiste, si j'ose dire, parce que ça veut dire que à chaque fois. Mais parce que ça veut dire qu'on protège tout et en protégeant tout.
Ah, moi, je protège pas.
On protège finalement.
Je protège les plus faibles.
Mais vous me faites cette espèce de procès, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée qui fait confiance dans l'économie privée, ça veut dire qu'on est un méchant type de droite et qu'on n'aime pas les saisonniers.
On a entendu.
C'est pas ça.
On a entendu vos arguments.
On a entendu les gens à embaucher et à les mettre directement au chômage partiel. Excusez-moi, c'est nos impôts qui payent. Excusez-moi, on ne peut plus le permettre.
Tendu.
En
ce
tout cas,
pays. Vos
quant
arguments
droit,
sur ce sujet.
Quant
je voudrais revenir sur
travail,
cette question. Joël Giraud.
Quant au droit du travail.
Voilà. Est-ce que rien vous dérange aujourd'hui dans ce qui est proposé dans la remise à plat des droits du travail?
Ça me dérange d'autant moins. Je veux dire que moi j'ai toujours été favorable. Bon, je suis un peu sédétiste. Hein. Non seulement je suis accusé de socialisme à l'ancienne, mais en plus je suis sédétiste. C'est affreux. J'ai été adhérent à la CFDT pendant longtemps, ce qui doit être un péché.
Il y a des gens très bien.
Mais toujours est-il que c'est vrai que j'ai toujours préféré, et c'est une rupture avec d'autres syndicats, c'est vrai, les accords d'entreprise aux accords de branche. Donc je crois qu'aller plus loin dans les accords d'entreprise me semble bon. Ce qui veut dire que ce que cherchait mon collègue en matière de réponse, c'était, je crois, les seuils sociaux que vous aviez posé comme question. Les seuils sociaux, moi, je crois qu'ils doivent aussi se négocier par des accords d'entreprise avec un verrou sur les accords de branche qui permettent effectivement de ne pas faire tout et n'importe quoi. De la même façon que le barème sur la problématique des barèmes des prud'hommes, pour être très clair. Évidemment, au bout d'un moment, il faut un barème parce que c'est pas normal qu'un salarié dans les mêmes conditions se retrouve avec des indemnités qui sont 10 fois plus importantes à Arras qu'à Gap et à Gap qu'à Marseille. Bon, c'est ridicule. Pour autant, il faut là aussi protéger. C'est-à-dire, il faut introduire un pouvoir du juge qui permet d'évoquer une exception lorsqu'il y a eu un mauvais comportement. Parce qu'il y a des mauvais comportements de tout le monde. Donc, ça existe. C'est marginal.
C'est pour ça qu'on pourrait imaginer l'idée d'un plancher pour protéger les salariés et d'un plafond pour protéger le chef d'entreprise.
Un barème, c'est ça, mais il faut aussi que le juge puisse dire s'il y a eu quelque chose d'abusif. Parce que vous comprenez bien qu'il y a des situations de temps en temps.
Oui, mais ça reste le rôle du juge, inévitablement.
Oui, mais c'est pas forcément ce qui est dit dans le projet que vous défendiez, parce que le rôle du juge était complètement encadré et il n'y avait pas de possibilité.
Moi, j'ai pas dit ça.
Je l'ai lu. Donc, le rôle du juge est important.
Moi, je l'ai pas dit ça.
On va conclure, on arrive au terme de notre rencontre, on n'aura pas pu aborder évidemment tous les sujets, c'était prévisible par avance, mais on va conclure avec une dernière question de Johan Gavoil du Dauphiné.
Oui, rapidement, parce que donc on
y est.
Un peu éclusé le temps.
Ah oui, on y est.
Un mot sur l'éducation et les
journalistes.
Une pensée pour ma collègue qui est là-bas. Un mot sur l'éducation et les rythmes scolaires. Doivent-ils être gérés par les communes, comme c'est le cas actuellement, ou par le ministre de l'Éducation? Faut-il revenir à la semaine des 4 jours?
Je vous réponds très simplement pour gagner du temps. Je suis pour la suppression de la réforme Payon. Et à nouveau, c'est un sujet sur lequel vous proposez, avec le programme d'En Marche, cette suppression, alors que vous en avez voté la création. C'est quand même à nouveau un point amusant. Mais non. Oui, je le confirme, d'autant plus qu'il faut avoir la vérité de dire que les TAP ont coûté immensément cher aux communes et que c'est toujours ce principe des décisions où on prend une décision, mais c'est les autres qui payent. Donc voilà, je considère que là-dessus, il faudra absolument, bien entendu, cette réforme
Merci Arnaud Murgia. Réponse synthétique, Joël Giraud, sur ce sujet.
Ouais, les choses ne sont pas aussi simples. Ce qui est prévu, c'est simplement de renvoyer à une réunion, à une rencontre entre la communauté éducative, les parents d'élèves, bien évidemment, et les collectivités, les modes d'organisation qu'ils souhaitent voir mettre en œuvre. C'est-à-dire plutôt un système qui part du bas et qui remonte que l'inverse. Et enfin, ça, je suis entièrement d'accord
quand
sur
vous
ce genre de choses.
La liberté, ça veut dire suppression
de la réforme
Payon.
Mais la liberté, ça veut pas dire
la réforme
Payon
étant une obligation.
Ça veut pas dire forcément qu'ils sont supprimés. Il y a des endroits où ça fonctionne. Donc, il faut qu'on maintienne le fric de l'État là où ça fonctionne pour que les collectivités qui désirent maintenir le système ne soient pas pénalisées.
Mon avis, on n'aura pas beaucoup.
Et là où ça ne fonctionne pas, effectivement, il faut revenir à des systèmes plus simples. La situation de Saint-Véran pour avoir un éducateur pendant une heure trente pour faire quelque chose à Saint-Véran, elle est singulièrement difficile.
C'est différent. Mais je vous rejoins très bien. Je vous redis accessoirement que la réforme Payon, c'est votre bilan.
Aller
vous en souvenez quand même.
Une réforme qui soit une réforme qui prenne en compte une réflexion locale.
Vous vous en souvenez que c'est votre bilan quand même, la réforme Payon.
Non, mais avec votre histoire de bilan, on voit que
on devrait tout oublier ce que vous avez fait pendant 15 ans et repartir de zéro.
Vous n'êtes pas vraiment dans la prospective, ce qui est quand même inquiétant pour un candidat parlementaire.
Du passé répond l'avenir, et il se trouve que quand on a un bilan, il faut quand même l'assumer, monsieur Giraud.
Oui, c'était celui de député, le 8e le plus bosseur de France. Merci.
Oui, mais c'est très là-dessus, très franchement, je vous reconnais bien volontiers, je vous reprocherai jamais d'être quelqu'un qui ne travaille pas, parce que je sais très bien que vous travaillez. Mais connaissant un petit peu le Parlement, vous savez aussi comme moi que déposer beaucoup de questions, c'est pas forcément avoir des réponses, et ça fait un peu augmenter les statistiques.
Bon, je renverrai les auditeurs au site d'Alpéan. Vous retrouvez effectivement le travail qui a été fait des parlementaires lors du dernier quinquennat pour se faire une idée de ce qu'il en est réellement, et vous le retrouvez d'ailleurs aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Merci messieurs d'avoir été notre invité, nos invités, d'avoir répondu aux questions du Dauphiné Libéré d'Alpe 1 pour ce débat.
Je précise juste qu'on est dans l'égalité de temps de parole.
Bien, et bien comme ça, les choses se concluent exactement comme il le fallait. La suite avec les élections législatives sur Alpe 1, ce sera dimanche soir, édition spéciale à suivre en direct dès 19h50. Vous serez, quel sera votre député en direct sur Alpe 1 dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Rendez-vous donc dimanche soir, 19h50 sur Alpe 1. On compte sur vous. Bonne soirée à tous.